Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous allons vous lire L'appelé de Guillaume Véry, publié aux éditions du Canoë. Nous sommes avec l'auteur. C'est un vendredi du mois de mars de l'année 1969, le 28e jour. Je suis allongé, moi Jean. Je ne suis que l'allongement immobile de mon long corps maigre déposé sur un petit lit en ferraille. L'allongé du deuxième étage de l'asile de Saint-Dizier, moi Jean, suis l'allongé de l'avant-dernière porte à gauche, de l'étroit couloir au mur jauni écaillé, moisi, triste mur. Deux gants blancs posent deux électrodes rondes sur mes tempes, sont reliés à un genre de gros poste de radio. Les gants blancs s'écartent de mon crâne. L'homme aux gants me dit d'attendre, que le grand patron va arriver bien très bientôt. Mais aujourd'hui, le service est rempli à ras-bord. Le grand patron doit courir à droite, doit courir à gauche, pour que le service ne déborde pas entièrement. Mais le grand patron ne tardera pas, dit l'homme aux gants. Seul lui sait. Seul lui connaît la machine, le matériel. Neuf derniers cris, entièrement modernes. Sophistiqué. Seul, lui, le grand patron, sait comment toucher la machine, sait où appuyer, sur quel bouton, les bons boutons, ceux sur lesquels il faut appuyer. Seul, lui, le grand patron, ne se trompe pas, n'appuie jamais sur un bouton sur lequel il ne faut pas appuyer. Vous pouvez être rassuré, dit l'homme aux gants, le grand patron n'est pas grand patron par le fait d'une série de hasards. Rien d'un lancer de dés. Une affaire de compétence unique. Soyez rassurés, vous pouvez l'être entièrement. Je demande à l'homme aux gants, moi, Jean, je demande quel genre de musique diffuse la machine avec sa tête de poste de radio ventru. Doit bien diffuser quelque chose. Alors autant que cela soit de la musique, si c'est possible, de la bonne musique. Moi, Jean, je précise, triste. La bonne musique est triste. Comment pourrait-il en être autrement ? Me ravissent légèrement par une absolue tristesse, parsemée de quelques éclairs de joie, pas nombreux, comme des petits cailloux le long du chemin, histoire de ne pas se dissoudre totalement dans l'immensité du noir, sans parole, cela va de soi. Moi, Jean, je précise, les paroles gâchent, ne font que répéter ce que disent les notes, alors autant faire sans. Moi, Jean, je demande à l'homme aux gants s'il me comprend. Il sourit. Le simple sourire calmement supérieur de l'homme debout face à l'homme allongé. Il ne répond pas, il reprend, didactique, comme s'il parlait à un aliéné. Après tout, c'est le lieu. Donc il explique. Lorsque le grand patron touchera les boutons de la machine, seul, que lui seul connaît, les 70 Hertz, les 70 Joules chemineront comme ils doivent cheminer. Depuis les fils électriques vers les électrodes jusqu'à l'intérieur du cerveau. Il ne précise pas de quel cerveau il s'agit. Doit sans doute tomber sous le sens que c'est le mien. Après, seulement après cela, le grand patron reprendra son chemin vers d'autres. D'autres allongés, aurait pu dire l'homme aux gants. Mais il ne cherche pas à blesser, en ne me réduisant pas au simple allongé que je suis. L'homme aux gants laisse transparaître des miettes d'appartenance à la compagnie des hommes tapis dans l'intérieur de son cœur. Plus qu'à attendre. Attendre que le grand patron appuie sur les bons boutons. Moi, l'homme allongé, n'ai plus qu'à espérer qu'une large musique triste vienne se répandre dans l'ensemble des strates fissurées de mon cerveau. Sait-on jamais, au cas où je me mette à danser, pas l'espoir d'un tango effréné, je ne suis pas fou. Je parle seulement de quelques déhanchés, de petits soubresauts de joie dans les muscles. Ça serait déjà sacrément ça.
Moi, Louis, moi le père. Moi le père du fils, autant dire le père de Jean. Moi, Louis, je brûle les affaires de Jean. Je vais les brûler. Reste seulement le temps de m'organiser. Ranger. D'abord ranger les affaires du fils. Les ranger dans une boîte en carton. Je dis affaire, je ne parle pas de vêtements pour le peu qu'il en avait. S'habillait tous les jours avec la même chemise froissée, portait tous les jours le même pantalon en velours marron. Déposer les papiers dans la belle boîte en carton. Ancienne boîte à bottes de pêche. Boîte rectangulaire. bien cartonnée, d'un carton épais, solide. Déposer les papiers du fils, bien déposer tous les papiers de Jean, les empiler à l'intérieur de la boîte, fermer la boîte avec le couvercle cartonné, poser la boîte sur le siège passager, tourner la clé de contact de la déesse grise. Les pneus de la voiture aplatissent les cailloux blancs de la cour de la haute maison. Le portail en bois noirâtre est ouvert, plus qu'à disparaître. Moi, Louis, moi le père, je roule vers le petit bois l'ensemble des papiers du fils dans la boîte à côté de moi, comme si c'était Jean que j'accompagnais à l'école. Comme si c'était Jean que j'emmenais faire une course. Comme si je partais en voyage avec le fils silencieux, assis à mes côtés sur le siège passager de la déesse grise. Pas de raison de se cacher, le petit bois est à moi, est à nous, à notre famille. Pas de raison de se cacher, qui d'autre que nous y viendrait. Quand même, je pars que la déesse à l'abri, pas envie de regard, aucune envie de croiser qui que ce soit, encore moins des personnes de la famille, alors je garde la déesse en retrait du chemin de terre. Je prends la boîte en carton, je descends de la déesse, je porte la boîte en carton dans mes bras, comme je portais le corps de Jean, ça va de soi quand il n'était pas grand. Je m'éloigne, j'avance dans le petit bois familial, m'enfonce. C'est un samedi du mois de mars de l'année 1970, le 28e jour. Un an à ne rien toucher. Un an à ne rien regarder des affaires du fils. Un an à ne rien en faire. À faire comme si rien. Comme si moi, Louis, comme si moi, le père, n'avais pas eu de fils. Pas eu de Jean. Un an de rien. Moi, le père, moi, Louis, je m'enfonce dans le petit bois familial pour brûler la boîte. La boîte de Jean. Brûler l'ensemble de la boîte. L'ensemble des papiers, des histoires de Jean. Ceux empilés dans la boîte à bottes de pêche. Parce que ça suffit, les histoires. Toutes celles qui tournaient dans la tête de Jean. Les histoires à nous faire devenir chèvres tous autant qu'on est les uns les autres. C'est aujourd'hui bien suffisant comme ça. Je m'enfonce dans la nuit du petit bois familial, une nuit américaine. Des nuages encerclent le soleil à sa perpendiculaire, tournent en cercle concentrique, s'agglutinent au-dessus du petit bois, s'amoncellent, méthodiques, et encore la lumière, découpée, au biseau, striée, lumière bleue, qui enserre les minces troncs du petit bois. Mettre la boîte dans le trou. D'abord creuser le trou dans le petit bois familial, le creuser et y fourrer la boîte aux feuilles de l'armée, la boîte aux feuilles psychiatriques, balancer 2-3 allumettes de ma pipe, tellement bien balancer les 2-3 allumettes bien rouges et bien fumantes sur les affaires du fils, veut dire les papiers qui concernent le fils, tellement bien les balancer que ça en sera fini, personne pourra s'en retourner dessus. Ça sera bien suffisant pour faire taire ceux qui voudraient s'y intéresser, au cas où il y ait des malins qui veuillent se pencher sur les histoires de gens. À tout bien brûler, ça sera réglé cette affaire. Je parle de la mort du fils. Plus rien à en dire, ça clôturera. On fera plus d'histoire, au moins il n'y aura plus d'histoire à faire. Va donc comprendre. Tu ne meurs pas à 30 ans, ça n'existe pas. Va donc comprendre. L'Algérie, l'armée, va donc comprendre. L'hôpital, la psychiatrie, va donc comprendre. Ça n'existe pas, la compréhension de ces choses-là, tellement enfouie dans les trous du cerveau, ça n'existe pas. Alors les feuilles des papiers du fils brûlent, commencent à bien flamber. Veux plus d'histoire, termine bien de flamber. Alors la cendre s'envole. Disperser les histoires de Jean. Le vent se lève dans le creux du petit bois familial, en légère rafale, éparpiller les histoires de Jean, parsemer le long des troncs, disséminer. La cendre des histoires de Jean, collée aux ailes des papillons du petit bois familial. Plus d'histoire. Il n'y en aura plus. À moins de savoir lire la cendre sur les ailes du papillon. Plus d'histoire de Jean.
Aujourd'hui, 50 années ont passé. Aujourd'hui, Joseph me demande si je me souviens. Si moi, Jean, je me souviens, à moi qui ne suis pas Jean. Le téléphone est contre l'oreille droite. J'ai l'impression d'un brouillard, d'entendre mal, d'avoir mal entendu, de me tromper. Aujourd'hui, Joseph m'appelle Jean. Je ne m'appelle pas Jean. Moi, Julien, je ne m'appelle pas Jean. Aujourd'hui, Joseph me demande, quand on faisait les 400 coups dans le petit bois avec les cousins, si je m'en souviens, moi, Jean. Je ne réponds pas. Moi, Julien, je ne réponds pas. Je suis dans les filets, pris à l'intérieur des filets de la parole calme du père. Pour le père, pour Joseph, je suis Jean. Le père ne doute pas. Joseph est le frère de Jean. Moi, Julien, je ne suis pas le frère de Joseph. Je suis le fils de Joseph, le petit-fils de Louis. Jean est mort. Moi, Julien, je suis vivant. Le père n'est pas sénile, le père est vieux. Seulement vieux. Mais aujourd'hui, le père m'appelle Jean, me prend pour Jean. Aujourd'hui, pour Joseph, je suis Jean. Pour Joseph, je suis le frère. Aujourd'hui, pour Joseph, moi, Julien, je suis Jean. Aujourd'hui, pour Joseph, moi, Julien, je suis le mort.
Je ne crois pas avoir connu l'existence de Jean avant les 3 jours d'incorporation au service militaire. Je veux y échapper, je veux être réformé, j'en parle à Joseph. Joseph me parle de Jean. C'est la première fois que Joseph me parle de Jean. C'est difficilement concevable que Joseph ait eu l'existence de Jean pendant 20 ans. J'ai 20 ans lors de ces 3 jours. Je n'ai pourtant pas de souvenir d'une parole de Joseph qui sorte Jean de l'oubli avant mes 20 ans. Je me trompe peut-être. Dis-leur que ça ne s'est pas bien passé le service militaire de ton oncle Jean en Algérie. Dis-leur. Je n'ai pas questionné Joseph. J'ai dit les mots de Joseph au médecin militaire chargé de prendre une décision. Je n'ai pas questionné Joseph. J'ai répété les mots de Joseph. Ça ne s'est pas bien passé le service militaire de mon oncle en Algérie. Le médecin militaire me regarde, me dit « je vous réforme ». Me dit « à moi, Julien, vous êtes réformé psychiatrique. P4. Une lettre, un chiffre. » Aujourd'hui, je me souviens, Joseph m'a dit « tu ressembles à Jean ». Joseph m'a dit la phrase bien avant le téléphone chaud contre l'oreille droite. Avant aujourd'hui, avant qu'il me prenne véritablement pour Jean. Joseph m'a dit « tu ressembles à Jean ». J'étais jeune, je ne sais plus l'âge. J'étais jeune, je n'ai pas prêté attention à la phrase. Moi, Julien, j'ai entendu la phrase de Joseph comme d'autres phrases, comme les phrases au milieu d'autres phrases, comme toutes les phrases du père que l'on entend et que l'on déteste avant même de les avoir écoutées, parce que c'est le père qui les dit, alors même que l'on a un seul père, qu'on en cherche pourtant partout, et que la moindre personne en âge d'être son père qui dirait une phrase pas trop bête deviendrait un héros, alors qu'avec le père, le sien, alors qu'avec son propre père, on voudrait balancer dans les orties le premier mot qu'il aurait osé sortir de sa bouche. Pauvre père. Aujourd'hui, le père parle de celui dont il ne parle pas, dont jamais il ne parle, dont jamais personne ne parle. Aujourd'hui, le père n'en parle pas. Le père dit que je suis celui dont on ne parle pas. Aujourd'hui, le père confond, mélange, fait rompre la digue. Moi, Julien, aujourd'hui, j'ai peur. Moi, Julien, aujourd'hui, la parole confuse du père me fait peur. Aujourd'hui, moi, Julien, j'ai l'impression d'emprunter un fleuve sombre. Aujourd'hui, moi, Julien, je suis un Indien, je remonte des eaux noires. Aujourd'hui, moi, Julien, je donne des coups de pagaie dans des eaux pétrole. Des corneilles planent, la pirogue sillonne le courant noir. Moi, Julien, moi que le père appelle Jean, moi, Julien, je suis embarqué par le fleuve des histoires silencieuses. Les corneilles viennent taper leurs reflets contre la surface des eaux. Les corneilles tapent, les corneilles se fracassent, se relèvent, planent encore, planent, suivent ma petite embarcation, ne me lâchent pas, les corneilles empruntent le mouvement des pagaies.
Moi, Julien, je pense à ce que je sais de toi, toi, Jean. Je sais que je sais seulement de toi ce qui est seulement su de toi, Jean. Appelé en Algérie, à ton retour, tu te tues. À ton retour de la guerre d'Algérie, tu te tues. Je répète. Tu te tues à ton retour de la guerre d'Algérie. Tu achètes une corde résistante. Tu l'achètes dans la droguerie principale de Saint-Dizier. Tu rentres dans la longue grange de la haute maison. Tu installes ton affaire, corde, tabouret. Tu t'imagines un instant dans un feuilleton de l'ORTF. Tu dis bonsoir à tes parents, Louis et Jeanne. Tu habites avec eux depuis ton retour d'Algérie. Tu te couches en te disant que demain tu verras où tu en es. Le lendemain, tu ouvres la porte de la longue grange. Ton destin se scelle, tu as décidé, c'est aujourd'hui. Tu montes sur le tabouret, tu passes le nœud de la corde autour de ton cou, tu te jettes, comme un homme se jette dans un amour. Tu te balances dans l'espace vide entre le tabouret et le sol. Les quelques centimètres de distance suffisent à étreindre la corde autour de ton cou. Les corneilles battent leur appel, tout croisse, tout casse, les oreilles, tout est blanc. La pirogue s'immobilise, prisonnière de la mangrove. Tout n'est que cercle immobile, tout n'est que temps extrait du monde des vivants, tout n'est qu'extraction de la terre des hommes. Tu te tues à ton retour de la guerre d'Algérie, je répète encore, parce que je n'en sais rien, ta phrase est une fiction, la fiction familiale déposée en moi. Le père parle à moi, Julien. Aujourd'hui, le père ne m'appelle pas Jean. Le père dit que l'on n'a jamais bien su, le père répète, jamais bien su. Même Louis, même Jeanne, tes grands-parents n'ont jamais bien su, le père répète, c'est compliqué, c'est compliqué. Le père répète, puis le père dit, Jean ne s'est pas tué, c'est compliqué. compliqué. Le père répète les mots en spirale, c'est compliqué. Une spirale noire, Jean ne sait pas tuer, c'est compliqué. La spirale s'engouffre dans l'obscurité calme du matin, de l'hiver. La spirale noire me happe, le père me happe. Le père reprend quelque chose pour Jean, après le service, quelque chose ne pouvait plus. La mort, celle de Jean, c'est la voix du père, vacille, terrible. Je me tais, tout se noue, tout, la gorge, tout. Le père tombe, moi Julien, je tombe en silence. Le père et le fils sont réunis.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Quelque chose pousse. Je reçois l'acte de décès de Jean. Je demande le dossier militaire de Jean. Quelque chose pousse, me pousse, moi, Julien. Cette chose s'accompagne de la honte. Elle est informe, elle est impérieuse et honteuse. Comme s'occuper d'une affaire qui ne me regarde pas. Comme si j'étais l'enfant à qui l'on dit « occupe-toi de tes affaires ». Comme si j'étais l'enfant qui voulait passer le bout de son nez dans les affaires des adultes. La honte s'accroche à cette place de l'enfant. Moi, Julien, je lis l'acte de décès de Jean. Le document porte le numéro 000126. Tu es le premier fils de Jeanne et de Louis. Tu nais le 21 février 1939 à Saint-Dizier. Tu meurs le 28 mars 1969 à 10h15 à Saint-Dizier. Dessinateur industriel est écrit sous la mention profession. À 15h, Hector Vasseur signe l'acte. 54 ans, Hector Vasseur est secrétaire de direction. Thierry Gaon, chef de bureau de la mairie de Saint-Dizier, signe également. Moi, Julien, je regarde l'acte de décès. Le papier est orange-brun. Je regarde, je lis. 5 petites lettres manuscrites sous la signature d'Hector Vasseur. Asile. Les 5 lettres brûlent. Décédé à l'asile.
Alors Joseph m'envoie une photographie noir et blanc par la poste. Joseph accompagne la photographie d'un mot, ce que j'ai de Jean, je n'ai que ça, écrit Joseph. Joseph et Jean sont dans un berceau. Joseph a 2 ans, Joseph a 1 an. Jean a 2 ans, Joseph a 1 an. Jean est l'aîné, Joseph le second. Nous sommes en 1941, c'est noté au dos de la photographie. Tu n'as plus que 28 ans à vivre, Jean. Tu vivras 2 guerres et tu mourras, le sais-tu? Je vous regarde, Jean, toi, Joseph, les 2 frères nés à moins d'un an d'intervalle. Toi, Jean, tu deviens dessinateur industriel. Que dessinais-tu? Moi, Julien, je n'en sais rien. Dessinais-tu des objets fabriqués dans la fonderie de ton père? Je ne sais pas. Toi, Joseph, tu choisis de devenir médecin. Pas n'importe quel médecin, tu me l'as dit tant de fois. Joseph, les plus longues études que je n'écoutais pas, je t'ai pourtant entendu, Joseph. Anatomopathologiste, le nom de métier que personne ne sait écrire, que personne ne sait dire, un nom crypté, un nom magique, un nom de chaman. Tu l'as choisi en connaissance, tu es le médecin qui ne rencontre pas les patients, tu ne voulais pas les rencontrer. Tu es celui qui observe les patients sur les plaques en verre à travers les lunettes d'un microscope. Tu n'as pas fait semblant de t'intéresser aux patients en chair et en os, autre chose t'intéressait. Les formes, ces formes abstraites que tu me montras lorsque j'étais un enfant, un adolescent, ces formes sur les plaques en verre, ces tableaux du vivant infiniment petit. Je me souviens des diagnostics que tu dictais à ta secrétaire souvent. Je lis ta secrétaire. J'étais un adolescent. C'était la jolie secrétaire qui t'appelle les comptes rendus. C'était la jolie secrétaire qui écrivait les mots que tu avais réussi à extraire des formes abstraites. Tu n'es pas l'homme ordinaire, Joseph, tu es l'oracle. Celui qui annonce la poursuite de la vie ou son achèvement à partir d'un tableau abstrait, le tableau des tissus, le tableau des cellules enfouies dans le corps. Je t'ai vu tant de fois les yeux collés aux lunettes du microscope, Joseph. Je conserve les mots, je conserve encore les mots que tu dictais. Carcinome, carcinome, adénocarcinome, bénin, métastase, malin, mélanome, des mots faits de mystère, des mots comme une prière, des mots dont seul toi pouvais comprendre le sens, les mots d'une langue étrangère dont seul toi pouvais entendre les échos, les mots d'un homme-dieu. Je comprends aujourd'hui, Joseph, aujourd'hui, je comprends ton aversion pour tout le reste, pour tout ce qui t'épuise péniblement l'écume de nos vies. Tu es l'homme des profondeurs, Joseph, pas celui des surfaces. Je ne suis rien d'autre, moi, Julien. Je ne suis rien d'autre que le fils idiot. Rien d'autre que le fils idiot qui a mis tant d'années à attendre le père, à entendre le père.
Les 2 feuilles de l'armée française sont lacunaires. Des dates. Seules des dates. Moi, Julien, je les lis. 20 décembre 1960, embarquement à Marseille. 21 décembre 1960, débarquement à Alger. Janvier 1961, affecté à la 70e compagnie de réparation divisionnaire basée à Berouadia. 17 mars 1961, évacué sanitaire par voie maritime depuis Alger. 18 mars 1961, débarqué à Marseille. 3 mois. Tu ne restes que 3 mois. Évacué. Évacué sanitaire. Que veut dire évacué sanitaire? Que sont ces 2 mots? Que sont ces 3 mois? Quoi à l'intérieur des mots? Quoi à l'intérieur des chiffres. Quel est le secret de l'homme qui meurt à 30 ans ? Ça s'est mal passé dès la traversée, me dit Joseph. Jean ne voulait pas partir, Joseph n'en dit pas plus. Je pense que Joseph n'en sait pas plus. Je ne comprends pas, je n'ai aucune image, je n'ai aucune idée. Aide-moi, Jean. Aide-moi. Quoi ? T'as foutu ton poing dans la figure d'un sergent qui disait qu'il était tellement content d'aller se farcir de l'arabe ? Quoi ? T'as reluqué la plus jolie fille de tout le rade ? Manque de bol, c'était la petite de l'adjudant ? Quoi ? T'as gueulé à la lune que vous étiez tous des fous alliés d'aller maintenir l'ordre dans des coins qui n'auraient jamais dû être français ? Quoi ? T'as seulement dit qu'on t'envoyait au casse-pipe, que c'était pas un service militaire que t'allais faire, mais une guerre. Tu ne donnes aucune nouvelle pendant ces 3 mois. Joseph se souvient, il t'a écrit une lettre, il t'a demandé de donner des nouvelles à votre mère Jeanne, à votre père Louis. Toi, Jean, tu n'as pas répondu. Je dois poursuivre. Les mots manquent. Moi, Julien, je dois faire comme Joseph, les yeux plongés dans les lunettes du microscope. Je dois inventer, donner forme à l'informe. Moi, Julien, je dois être Jean, l'homme qui meurt à 30 ans. Que Jean vive encore, vive pour enfin mourir. Qu'enfin Jean meure. Qu'enfin Jean puisse mourir véritablement. Je donne de nouveaux coups de pagaie, je quitte l'entrelac, la pirogue glisse sur des eaux sans fond, évite les éboulis. Moi, Julien, je dois poursuivre dans le pays inconnu.
C'est d'abord le soleil qui te frappe. Tu es né à Saint-Dizier, ne l'oublions pas. Le soleil qui castagne contre tes habits lourds de militaire. Tu sues, tu as mal au crâne. Tu bois de l'eau, tu as toujours mal au crâne. Tu avances dans les collines sèches, sur les hauteurs de Bouraouia. Tu es arrivé la veille, tu en es déjà à te faire mal aux pieds sur les sentiers arides. Tu es l'avant-dernier de la colonne, vous êtes une vingtaine. Tu n'en sais rien, tu n'as pas compté. Tu connais 2-3 prénoms, pas davantage. Tu n'as eu le temps de rien, encore moins de parler depuis que tu es arrivé dans ce trou perdu. Tu entends un type gueuler, un type qui est devant, tu l'entends gueuler, tu ne l'écoutes pas, il gueule fort, il a une tête qui ne te revient pas, tu te l'es dit dès que tu l'as vu, c'est le chef, tu as déjà oublié son grade, tu t'en fiches des grades, ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu n'aimes pas cette organisation, tu n'aimes pas ces types avec leurs calots sur la tête, Jean, pas de vague, Louis te l'a dit avant de partir, courbe, ne dis rien, surtout ne dis rien, et tu reviendras comme tu es parti. Faire les malins comme ils le font, et pas seulement le grand con à gueuler en tête de peloton. D'autres suivent, la majorité évidemment, une majorité, et sa gueule, pas de phrases, rien que des petits bouts de mots, et sa gueule pour te donner du courage sur le sentier qui fait mal aux mollets, flinque les talons.
Pas plus d'une journée, et moi Jean, j'en suis à vomir. Je ne fais pas d'image, je vomis dès le premier soir. On pourrait penser à une insolation, ce n'est pas une insolation, c'est déjà trop. Pas le temps de philosopher, 5h du matin, grand con réveille le camp. Il gueule qu'il y en a à se farcir dans la plaine à 1 heure de marche. Au moins ça ne grimpera pas, au moins c'est une plaine. Pas le temps de pisser, le temps de rien, seulement de se lever, en fantôme, rejoindre les fantômes et que ça redémarre. Grand con gueule, ne s'arrêtera jamais, il gueule, avec sa voix perchée dans les aigus. Il est sûr qu'on va s'en faire avant le lever du soleil. Ils le méritent ces salauds, ils ont descendu 2 de nos gars. On va leur montrer qu'ici c'est pas chez eux. Et grand con gueule. On s'approche d'un village. Une dizaine de maisons, pas plus. On rase tout, dit Grand Con. On rase tout, répond la meute. Grand Con précise, sauf les très baisables. On garde les très baisables, répond la meute. L'ensemble de la colonne sort son arme de service. Je suis le mouvement. Pas de vague, Jean. L'envie de vomir qui revient, c'est pas davantage une image. Je ne peux pas me retenir. Le gros derrière moi, un de ceux dont je connais le prénom, Marc, alerte. Jean vomit. Il enfonce le clou, se bidonnant. Jean a peur. Grand con coupe court. On laisse faire ce qu'il a à faire, il nous rejoindra, on avance. Je termine, moi Jean, je termine de vomir. Reprends ma place, le dernier dans la file, je bois un coup d'eau. Pas le temps de fermer la gourde, grand con hurle, ça sort. Tu parles. La colonne fait un tel boucan avec les pompes militaires dans ce coin paumé sans jamais un bruit. Tous sortent de leur maison. On ne voit pas plus loin que son nez. Des ombres, seules des ombres. Les ombres tentent de s'échapper. Ça balance, la colonne tire. En rafale, ça renvoie des balles de toutes parts, ça balance sur les ombres, l'armée française tire, l'armée française tue les ombres. Ce n'est déjà que le silence, et l'odeur de la poudre, et l'odeur du sang. Le soleil apparaît, éclaire une jeune femme, elle sort de sa cachette, elle est apeurée. Servez-vous, dit Grand Con. La France se sert.
Aujourd'hui, on ne bouge pas. Aujourd'hui, on reste au camp de base. Les ombres sont de retour. Ils ont tiré, tiré sur des ombres. On ne voyait rien. Ils ont tiré. J'ai vu, moi, Jean. J'ai vu les ombres ne plus être des ombres, devenir des corps. Moi, Jean, j'ai vu le corps mort de la petite fille, du petit garçon, du vieil homme, du jeune homme, de l'homme, de la femme. Moi, j'ai vu les ombres mortes devenir la chair. Moi, Jean, j'ai vu le sang couler depuis la chair. Le pays occupé, étendu, allongé, mort sur le sol aride, le sang des imbécilités se répand, bleu, le ciel, blanc, le sol, rouge, le sang. Allons, enfants de la patrie, allons, enfants de la patrie, sortez vos membres, allez, enfoncez vos membres dans la jeune femme, allez, prenez votre place, votre tour, allez, faites la queue, allez, sortez vos queues, allez, enfoncez vos queues françaises dans la jeune femme, allez, payez-vous gratis, gratis de la jeune femme arabe, allez, l'armée française vous l'offre. Allez, vous êtes les militaires de l'armée française. Allez, vous êtes les appelés de l'armée française. Allez, le jour de gloire est arrivé.
Dans la cour, un long type se tient apeuré. À toi, me dit Grand Con, à toi, une balle, tu as une balle. Mollet, cuisse, pas plus haut, doit pouvoir parler, ce marre Grand Con. Je sors mon arme de service, je regarde le long type. Deux yeux ronds implorent, deux billes gavées d'effroi. Je regarde Grand Con sourit largement. Je pense à vider le chargeur de l'arme de service, le vider en entier dans la tête du Grand Con. Pas de vague, Jean, pas de vague, Jean. Je regarde Grand Con, je regarde le long type, me demande ce que je fiche là. Je suis déjà trempé, il est pas 7h du matin, je suis déjà en eau. Grand Con s'impatiente. Je balance l'arme de service, l'envoie valdinguer sur le sol. Le temps de rien, Grand Con tire une balle dans le genou du long type. Grand Con fait un signe à trois gus, le long type hurle, les trois gus m'embarquent. Le temps de rien, au trou. Pas de vague, Jean, pas de vague, Jean. C'est raté, cher père, j'ai raté. Cher père, bien raté. Au trou.
Merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était la lecture de Guillaume Véry. Guillaume Véry, l'appelé, paru récemment aux éditions du Canoë. Maintenant, nous allons avoir une petite plage de musique. Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et donc nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et je voudrais remercier Lucas Ponture et ses frères et famille qui sont derrière la vitre et qui assurent la technique pour nous. Et maintenant, vous présentez notre deuxième invité, d'ailleurs qui va se présenter lui-même. Donc nous venons d'entendre « A Child is Born » de Handel. Et c'est pourquoi est-ce qu'on vient d'entendre ça, Arnaud ?
J'avais pas fait le rapprochement, mais la transition est belle. Donc moi je suis Arnaud Lefebvre, je m'occupe d'une galerie qui porte mon nom et qui est rue des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement et qui présente actuellement une exposition qui s'intitule Accouchement, d'où le rapport avec Child is Born, un enfant est né. Donc c'est une exposition collective qui regroupe 45 personnes. L'espace n'est pas très grand, donc c'est une exposition dense par les réponses apportées, par la façon dont le thème, puisque finalement ça revient quand même à cette idée de thème est abordé par les artistes. Donc chaque personne, il y a une majorité de femmes dans l'exposition, mais pas exclusivement. Donc il y a à peu près un quart d'hommes pour trois quarts de femmes. Chaque artiste a répondu par une œuvre. Les artistes ont été sollicités avec cette simple proposition de participer à l'exposition sans développement particulier sur le mot accouchement. Et en complément avec deux questions, que représente l'accouchement pour vous et quelle œuvre avez-vous choisi et pourquoi ? Voilà, donc deux questions assez simples.
Mais est-ce que on peut savoir pourquoi l'impulsion initiale de l'idée de l'accouchement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où vient cette impulsion ? Quelle a été le...
Alors dans l'histoire, enfin le déroulement de l'exposition, il était prévu une exposition collective à cette époque, et cette exposition collective regroupait quelques personnes pas vraiment définies d'ailleurs, et puis en discutant avec une artiste, elle m'a demandé s'il y avait un titre à l'exposition, et puis je lui ai dit non, enfin que je n'en voyais pas, et puis mais que l'exposition était en cours de construction, et puis que des expositions, c'était dans cet esprit-là collectif, c'était toujours une espèce d'accouchement. Et elle m'a dit « Ah ben, ça ferait un bon titre ». Alors sur le moment, je me suis dit que c'était en même temps... un titre peut-être, pas habituel, mais assez bateau en réalité. Parler d'accouchement en matière d'art, c'est quelque chose qui n'est pas très original. Et puis en réfléchissant et puis en construisant peu à peu, donc ça finit par prendre une forme et puis une envie aussi de poursuivre et puis d'essayer de mener ça en lui donnant existence. Donc le nombre d'artistes a grossi, et puis on est arrivé à un certain moment où ça a pris cette forme.
Et donc vous demandez aux artistes ce que signifie pour eux accouchement, donc vous avez lu les réponses, vous ?
Oui, ben j'ai...
Alors quelle est la tonalité générale ou particulière ? Est-ce qu'il y a des réponses saisissantes ?
Ben je dirais qu'il n'y a d'abord pas réellement d'exposition, d'œuvres qui présentent, disons, l'accouchement d'un point de vue médical. C'est si on peut classer les réponses, c'est quand même en grande majorité. Bon, il y a cette opposition, il y a un certain nombre d'artistes dans l'exposition qui parlent anglais, et donc il y a cette opposition de termes déjà entre accouchement et en anglais. Ça a été traduit par une artiste par birthing, mais bon, c'est en général interprété comme giving birth, qui est donner naissance, donc. Ce qui offre, d'après une réponse des artistes, une perspective plus large au mot accouchement, qui en même temps, j'aime bien cette espèce de forme assez brutale de ce mot qui donne l'idée d'un passage, le passage d'un état à un autre. Donc ça a souvent été interprété comme l'idée de donner naissance et d'interprétation à travers l'œuvre d'art qui arrive très vite. Bon, les hommes, bien sûr, ont une réponse un peu différente des femmes. Mais c'est pas pour les femmes qui ont eu des enfants, c'est quelque chose qui, dans les réponses en tout cas, n'est pas mis en avant. Enfin.
Et donc c'est une exposition multimédia, il y a un écran vidéo, il y a une valise avec des poupées dedans, il y a donc en 3D je veux dire, il y a du 2D, du 3D et puis de la vidéo, c'est ça?
C'est vrai, absolument, oui. Donc il y a un ensemble de vidéos qui sont en boucle les unes derrière les autres, l'une des vidéos étant une bande-son, et puis les autres œuvres sont quand même essentiellement des œuvres plastiques au mur, et une œuvre de l'artiste Angélique Bindoun, qui est un ensemble de poupées dans une valise. Donc elle parle de non-accouchement dans l'accouchement et de la violence que représente pour les jeunes enfants, en tout cas la confrontation à la violence, c'est son expérience pour les jeunes enfants.
Il y a du fil de fer barbelé, non, cette
valise? Il y a quatre poupées noires. Bon, Angélique Bindoun est d'origine du Bénin. Elle vit en Suisse, à Lausanne, depuis longtemps. Et il y a quatre poupées noires qui sont entourées de fils de fer, posées dans une valise et avec des œuvres qui les entourent et avec une forme d'écriture. C'est en réalité une sorte de grand journal. Enfin, c'est ce qu'elle poursuit dans son œuvre d'une façon globale. Et donc c'est une sorte de d'écriture plastique, peut-être on peut dire ça, sur le non-accouchement.
Et dans une des vidéos, j'ai vu que c'était pris d'un train, je pense, des paysages comme les montagnes en Allemagne ou en Autriche. Oui. Quel est le rapport, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, c'est l'œuvre d'Anne-Marie Gourier. C'est un simple voyage, c'est un déplacement d'un train. Donc on est encore en Suisse, là. C'est un train qui se déplace en Suisse avec la musique, sur le fond de la musique du voyage d'hiver de Schubert. Et donc, c'est voilà, un simple voyage, quelque chose de très linéaire, si l'on peut dire. En tout cas, c'est une chose d'ailleurs que je n'ai pas mentionnée, mais dans les réponses, il y a cette notion du temps qui intervient souvent. On est mis en présence de deux temporalités par le phénomène de l'accouchement, et ça fait rentrer l'opposé de la vie, c'est-à-dire la mort également, dans cette temporalité. Donc on est voilà, pris dans une sorte de...
Est-ce que vous voulez qu'on dise le nom des artistes?
Oui.
Alors, il y a Annie Bacless. Vous me reprenez si je prononce mal les noms propres.
Annie Bacless. Stéphane Bayard.
Catherine Belkodjia. Oui.
Gina Birch.
Charlie Blanchard-Garoche.
Christine Bouvier.
Bill Brown.
Agnès Butet.
Michel Chéric.
Mireille Tchernik. Nicolas Claire.
Nathalie Curtis.
Richard Daley.
Azil Grindoun. Vous venez de le dire,
Agilek Bindoun.
Bindoun.
Véronique Goël.
Anne-Marie Gourier.
Florence Gourier.
Nicole Hassler, putain, c'est un peu dur à lire pour moi, c'est tout petit, c'est loin.
Herta Haussmann. Robert
Huot.
Marie-France Jean.
Nadine de Königsberg. Königswarter.
Nadine de Königswarter.
Alors, je le dis, Nadine de Königswarter. Excuse-moi, Nadine, d'avoir écorché ton nom.
Marie-Danielle Koechlin.
Alison Grace Coller.
Nathalie Leroy-Fievé.
Pat H. Marthe.
Cathy Martin.
Lise Maurer.
Melissa Meyer-Galbraith.
Leslie McAllister.
Helga Natz.
Judith Nelson.
Paul Nelson.
Christine Pio.
Noémie Pujol.
Diane Quimby.
Diana Quimby. Ned Richardson.
Anne Sossois.
Antonia Soulez.
Claude Springer.
Jason Stonking.
Eiji Suzue.
Ryo Takahashi.
Yves Tenray.
Olga Theuriet.
Nini Vu. Niniyu. Ben voilà, alors.
Donc c'est classé par ordre alphabétique des noms, là, en l'occurrence.
Oui. Et donc, quoi d'autre de remarquable? Un grand format, par exemple, comme un nu académique, comme ça, un grand format en noir et blanc d'un corps de femme?
Alors, il y a quelques nus académiques, effectivement.
Oui.
Cette grande pièce de Diana Quinby qui est frontale quand on rentre, qui est un grand dessin qui... On ne voit pas le visage.
Il n'y a pas de visage.
Il n'y a pas de visage. Bon, il se trouve que c'est une forme d'autoportrait. Dans sa réponse, Diana Quinby dit que c'est une forme d'accouchement de soi-même, qu'elle a choisi ce dessin par rapport à ce qu'il est, avec une robe. C'est une femme dans une robe avec énormément de plis. Donc il y a dans ce pli quelque chose qui se passe dans la quantité, dans la texture, dans la densité de ces plis.
Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille sur le vieillissement du corps, qui fait régulièrement des dessins de nu d'elle-même dans l'état actuel dans lequel elle est?
Vieillissement du corps, mais par la réalité réalité des choses, on peut absolument.
Et puis de Nadine de Koenigswarter.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle expose?
Alors, elle expose elle dit que toute forme d'œuvre d'art est un... Enfin, tout art est une forme d'accouchement pour elle. Toute œuvre d'art, voilà, est une forme d'accouchement. Elle expose une œuvre de pastel gras, relativement ancienne, existante déjà. Donc, c'est aussi une des caractéristiques de l'exposition. Assez peu d'œuvres ont été faites spécialement pour l'exposition, donc c'est des œuvres choisies par rapport à...
Il me semble qu'elle a été au Sénégal, qu'elle a travaillé sur des rythmes sénégalais, choses sur l'Afrique.
C'était chez les Dogons, elle a passé un séjour...
Les Dogons, c'est au Sénégal?
Non, au Mali.
Ah oui, au Mali, oui. C'est ça, oui.
Oui, au Mali. Et donc là, je ne sais pas si l'œuvre fait référence à ça. Elle est plutôt abstraite, cette œuvre. D'ailleurs, un certain nombre d'œuvres sont de tendance abstraite dans l'exposition.
On a des films de Jean Roux, je pense, sur les Dogons. Des trucs assez extraordinaires. Oui. Et puis Bill Brand.
Ah, Bill Brand, ok. Donc lui a choisi... Bill Brand, c'est un cinéaste, cinéaste expérimental, qui vit à New York, et depuis 10 ans, j'ai constaté que ça faisait 10 ans, il a été confronté par l'expérience d'un voyage en Chine à la peinture chinoise qu'il a pratiquée lui-même. Donc deux œuvres réalisées avec sur papier, du papier Xuan, un papier particulier de texture. Qui sont des représentations de son environnement proche, qui sont des œuvres qui sont une forme de sérénité, d'apaisement,
Il a quel âge à peu près?
Bill Brandt. Quel âge est-il à peu près?
Il me semble avoir vu des films de lui quand je voyais beaucoup de films expérimentaux. Et alors cette chère Olga Theurier...
Olga a choisi une œuvre existante. Je pense que cette exposition est un investissement important pour elle, même si elle a fait une réponse assez succincte. Elle doit faire une lecture, ça c'est peut-être une chose dont on peut parler, puisqu'il y a un ensemble de performances qui aura lieu tous les jeudis pendant l'exposition qui dure 2 mois. Et donc Olga présente une œuvre cousue, c'est son médium, hein, la couture, en utilisant la machine, ça c'est important, cousue à partir de papiers qui sont réunis ensemble. Bon, un certain nombre d'œuvres et même tout l'ensemble de ses œuvres fait référence à son vestiaire, à ses vêtements. Et là, en l'occurrence, ce sont des papiers qui, certainement, ont un rapport avec la correspondance.
Des patrons, peut-être des patrons.
Aussi, probablement découpés. Différentes sortes, avec une œuvre qui est presque une reconstitution d'une grande fragilité, qu'on pourrait imaginer une grande fragilité, mais qui, qui est réuni par le biais de cette couture.
Donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans la vie d'un certain roman et nous parlons d'une exposition qui a lieu à la galerie Arnaud Lefebvre à la rue des Beaux-Arts. Et dans cette exposition, il y a un certain nombre de performances. Donc, vous pouvez nous parler de ces futures performances maintenant.
Oui, alors, donc, tous les jeudis, il y aura. Enfin, les artistes ont été sollicités à faire quelque chose. Donc, il y a eu des réponses diverses. Et donc, il y a pendant tous les jeudis de l'exposition, le premier jeudi, c'est-à-dire dans deux jours, il y a deux personnes, Agnès Butet, qui est plasticienne et enfin, surtout chorégraphe, et Marie-Danielle Koechlin, donc, qui elle est vraiment plasticienne. Alors j'ai un peu envie, de plus que de présenter, de lire leur réponse à « Que représente l'accouchement pour vous si, ?» voilà. Donc Agnès Butet a répondu « J'ai lu quelque part, l'œuvre ne revient jamais vers l'auteur. Je vois l'accouchement comme cela. » Comme un mouvement irréversible du corps. Ce mouvement crée les conditions de passage d'un monde à un autre sans retour possible. C'est l'opération par laquelle quelque chose peut arriver et passer du secret à l'expression, du silence à la voix, d'une voix à une autre. C'est donc aussi une passation. Cette propension radicale à l'altérité est une énigme, une poussée du geste vers une forme incertaine, comme une voie ouverte vers une autre pesée, l'épreuve renouvelée d'une chute à venir ou la promesse heureuse d'une nouvelle étendue ? Point d'interrogation. Ça, c'est donc Agnès Butet.
Jeudi suivant.
Alors, je vais rester sur le jeudi qui vient avec Marie-Danielle Koechlin, sa réponse, si c'est possible. Donc, Agnès Butet va présenter une performance qui s'appelle « Descendre, descendre ». Descendre le verbe et descendre des cendres du feu, en deux mots. Et Marie-Danielle Koechlin va présenter va plutôt parler de son travail, puisque ce qui est montré, ça a été inclus dans une grande installation qu'elle avait faite dans une galerie à Lausanne en 1999. Qui s'appelait Le voyage d'une hypothalamuse. Donc c'est classé par là. Alors je vais lire aussi sa réponse, ce qui lui donnera une voix. Donc que représente pour vous l'accouchement ? Alors elle répond mettre au monde, faire sortir de soi un être ou quelque chose de vivant, c'est-à-dire nouveau, unique, bien que relié à une ascendance. Une œuvre doit donc être à la fois esthétique, c'est-à-dire répondant à certaines exigences solidement construites, vivantes et nouvelles, la nouveauté étant l'un des ingrédients de la vie. En tant qu'artiste, c'est une forte exigence, mais elle est incontournable. Je crée, je peins, j'invente des figures ou des objets. Certains sont plus plaisants que d'autres, mais où y a-t-il de la vie ? Comment le savoir ? La vie est mouvement, progression, évolution. Mais alors, dans un objet inanimé, une peinture, une sculpture, comment déceler s'il y a vie ? La vie, c'est la capacité de susciter chez l'autre, le regardeur, une émotion, une pensée, une réflexion. Tout comme dans l'amour charnel, il y a la masturbation solitaire, il y a l'acte amoureux. Les deux sont très bons, mais lors de l'acte amoureux, la communication avec l'autre amplifie la jouissance. Il faut donc me mettre à la place de l'autre, le regardeur, ne pas suivre mon seul désir, mais garder présent en moi un regard extérieur. Voilà, donc ça, c'est les deux artistes qui vont intervenir jeudi. Et puis, donc un programme des jeudis suivants.
Dites-nous. On a encore 5-6 minutes, allez-y, dites-nous.
Alors, le programme des jeudis suivants, je ne l'ai pas sous les yeux. Et donc, je sais que parmi les gens qui doivent intervenir...
Vous pouvez parler de l'intervention de Véronique Goël.
Alors, Véronique Goël est cinéaste et elle a réalisé récemment une monographie. Et donc, c'est tout simplement la présentation de sa monographie qui est pour elle une sorte de grande épreuve, d'après ce qu'elle dit. Peut-être l'épreuve la plus difficile qu'elle a surmontée, réalisée jusqu'à présent.
Mais c'est une monographie sur ses installations, c'est ça ?
Sur ses films.
Ah, sur tous ces films.
Sur tous ces films, oui, oui, c'est vraiment une sorte de rétrospective. Et la monographie, enfin l'ouvrage en lui-même, est construit vraiment comme un travail, comme une œuvre en soi. Donc on a un parcours sur 35, 40 ans peut-être de création cinématographique et aussi photographique.
Je pense que son premier film doit dater de 78 ou peut-être une vidéo alors, 79.
Je vous fais confiance.
Ouais. Et quoi d'autre alors ? Quoi d'autre comme temps fort dans comme ses performances ?
Temps fort de l'exposition.
De l'exposition.
Bah, il y aura peut-être parlé d'artistes dont il n'y a pas d'œuvre au mur. Il y a deux personnes. L'une, c'est Antonia Soulès, qui est à la fois philosophe et poète. Qui est dans matière de philosophie une grande spécialiste de Wittgenstein et qui écrit de la poésie en parallèle et donc qui va lire des poèmes qu'elle a, je crois, en partie conçus tout récemment, donc probablement dans l'idée d'exposition. L'autre personne étant Annie Baclès, Annie Baclès, c'est ma mère.
Mère ?
Oui, ma mère à moi. Oui. Ouais. Et donc ça sera le dernier jour de l'exposition où il y aura un choix de lettres qui parle de la naissance de mon frère, qui sera lu. Donc l'expérience qu'elle a racontée de ce qui concerne cet accouchement.
Elle raconte l'accouchement de votre frère, j'ai...
Ben, c'est-à-dire qu'elle était aux États-Unis à cette époque avec son mari et elle écrivait régulièrement à ses parents et donc elle parle de ce qui se passe, du bébé qui va arriver, des conditions dans lesquelles on accouche aux États-Unis, à Boston en 1960. Donc ça sera une façon de...
Elle a quel âge, c'est votre maman ?
Ma mère, elle est décédée en 2018.
Ah oui, non, ouais. C'est les lettres.
C'est les lettres, oui.
C'est pas elle qui vient lire les lettres. Non. J'avais mal compris.
Non. Mon frère sera là, par contre.
Oui.
Ouais. Et puis, parmi les autres personnes qui vont participer... Donc on a parlé d'Ajinek Bindoun qui va faire une rencontre avec Lise Maurer qui aussi n'est pas présente dans l'exposition mais qui est psychanalyste et qui est une amie proche d'Ajinek Bindoun et qui va certainement parler de l'enfance et de la violence au travers de l'art aussi.
Donc on peut reprendre, on a combien d'artistes ?
45 personnes. Et je pensais quand même que l'œuvre aussi de l'exposition, puisque c'est quand même une sorte d'œuvre en soi, c'est une possibilité de rentrer soi-même dans une... je pense que le spectateur joue un rôle lui-même important dans l'exposition. Il y a quelque chose qu'il apporte et que lui, seul lui, peut apporter dans l'exposition. Et l'exposition est là pour dialoguer avec lui. Voilà.
Le spectateur vient et...
Ou spectatrice.
Spectatrice. Et il accouche de quelque chose.
Mais je pense qu'on est confronté quand même dans cette exposition un peu curieuse à qu'est-ce qui se passe devant moi et sachant qu'on est, quand même dans un contexte où l'accouchement est présent partout. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce que je vois ? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans ? Qu'est-ce que ça me raconte, quoi ?
Et dans la politique de la galerie, en général, la galerie Arnaud Lefebvre, les femmes sont majoritaires. Il y a une propension à exposer des femmes.
Ça s'est fait comme ça, oui, effectivement. Oui, c'est vrai.
Parce que donc on a 67% des élèves dans les écoles d'art qui sont des femmes. Et on n'a que 17% de femmes représentées dans les collections des musées. Et c'est récent.
Oui.
Ben, ces 17%, on est parti de très bas. Et c'est depuis, disons, l'an 2000 qu'il y a eu cette arrivée massive
Je pense qu'il y a un chemin qui est fait, certainement, et puis il y a une réponse différente en fonction des générations des artistes aussi. Je pense que les artistes qui ont vécu la deuxième vague de féminisme dans les années 70 ont certainement une autre réaction par rapport à des artistes plus jeunes qui sont à la fois plus intégrés à un système, mais en même temps plus, disons, d'une revendication peut-être plus affirmée ou un peu plus... plus, je sais pas comment dire ça, mordant. Enfin, les mots sont plus acérés, quoi, disons, peut-être dans.
Oui, oui, vous avez donc vous êtes à l'avant-garde de ce rattrapage.
Oui, peut-être. Oui.
Mais depuis longtemps, quand même.
C'est pas, ça s'est fait petit à petit. Oui.
Ouais, ça n'a pas surgi comme d'un seul coup.
Oui, ça s'est fait. C'est
dans ce sens-là, l'obscénité, malgré tout, qui reste associée à un mot comme accouchement, fait totalement sens. Enfin, le petit effet de choc, la petite chose difficile.
Alors, je peux poser une question, moi ?
Bien sûr.
Donc, il se trouve que donc vous êtes participant à l'exposition et vous avez choisi une œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
J'étais à Rome en 1971 et je vendais des dessins à la Piazza d'Espagne, les escaliers d'Espagne, donc comme à la place du Tertre ici. Et je vivais chez un couple, je dormais à côté de leur lit, j'étais leur vendeur, eux, ils étaient les dessinateurs. Et Jacqueline et Nerino, et Jacqueline était enceinte de 8 mois et 37 jours. Quand on est allé, elle a voulu l'épouser pour que le fils, comme on était en Italie, il fallait que l'enfant qui allait naître, elles espéraient que ça soit un fils, ait le nom du père. Et donc on est allé à la mairie et ils se sont mariés et j'étais le témoin. Et Nerino, qui était du Trentin, est parti immédiatement annoncer à sa mère qu'il était marié et que sa femme allait accoucher. Et donc, moi, je suis rentré chez lui avec Jacqueline, dans le lit, et moi, toujours couché par terre. Et pendant la nuit, elle a eu l'écoulement des eaux. On a dû commander un taxi, on est allé à l'hôpital, et j'ai assisté à l'accouchement de Jacqueline, pour lequel je n'étais absolument pour rien, mais tout le monde était persuadé que j'étais le père. Ils sont venus me montrer le bébé, c'était un garçon. Et donc, j'ai dit, mais je suis très content d'avoir un garçon, tout ça, au tout bip, pour pas aller... pour pas qu'il soit désappointé et tout se passe bien. Pendant ce temps-là, Nerino n'était pas là. Donc, c'est quand même une grande expérience dans ma vie. Oui, on pourrait le dire, on pourrait. Mais là, l'émission se termine malheureusement. Mais maintenant, avec toutes ces poussées féministes, tout ça, je pense à tous les avortements dont je suis responsable dans ma vie. Uh-huh. Et c'est marrant parce que ça revient comme ça, comme un mauvais cauchemar. Je revois une telle ou une telle et je me dis, tiens, ouais, elle est allée avorter. Puis j'en ai pas fait toute une histoire, je suis passé dessus et voilà, ça.
Et
le monde a changé.
Dans les réponses des artistes femmes, il y a aussi des réponses qui disent qu'elles n'ont aucune envie de mettre au monde et que ça ne les intéresse pas.
Enfin. Ouais, écoutez, merci, on viendra voir votre exposition.
Merci.
Et on est à la fin maintenant de l'exposition à l'IRFM 93.1, La vie est un roman. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.